session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe le 5 novembre 1994 à Rimont. Le Christ rédempteur, premier cours.
Alors je dois prendre le train en marche. Il n'y a que des raccords qui doivent se faire, c'est pas toujours commode. Mais s'il y a des questions qui se posent, vous les poserez hein, dans les carrefours. Et s'il y a des questions au carrefour qui restent avec des points d'interrogation, il faut me les remettre pour que on ne quitte pas une session théologique ou philosophique avec trop de points d'interrogation. C'est sûr, la théologie doit normalement ouvrir de nouvelles perspectives. Le croyant, lui, il prend le chemin tout droit, indiqué par la tradition, indiqué par l'enseignement actuel de l'Église. Mais la foi ne satisfait pas notre intelligence pleinement. C'est toujours un dépassement et dans l'obscurité. C'est pour ça que Thomas d'Aquin dit que la foi n'est pas une vertu intellectuelle. C'est plus, c'est une vertu théologale. Mais ça tombe du ciel. Mais c'est l'exemple que prenaient les pères de l'Église en disant que c'est une greffe. On a tous vu dans des cerisiers qu'on greffait, le tronc est beaucoup plus gros que la greffe. Et c'est que petit à petit que la greffe prend tout. Mais au point de départ, alors c'est toujours un peu comme ça. Notre intelligence a, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, elle désire voir clair. Elle désire que les choses soient nettes. Et clair. Et la foi nous fait adhérer à des vérités qui viennent d'en haut, qui ne reposent pas sur notre expérience, qui viennent d'en haut, de Dieu, directement, du Christ, de l'Esprit Saint, et qui ne sont pas immédiatement compréhensibles. Et alors, le mystère que nous voyons maintenant ensemble, le mystère du Sauveur, Jésus Rédempteur, nous sommes tous des sauvés d'un naufrage terrible, le déluge, d'un naufrage effrayant, l'iniquité généralisée. Et je crois que si Dieu avait dit qu'il n'y aura plus de déluge, je crois qu'on en aurait un fameux hein, actuellement. L'iniquité généralisée, ça se voit partout. Hein. Il n'y aura plus de déluge. C'est du reste très extraordinaire. Moi, c'est une des phrases qui m'étonne. Dieu veut dire, vous êtes arrivés grâce à mon Fils bien-aimé. Un âge adulte, je ne vous punis plus comme des enfants. Parce que le déluge, c'est la grosse fessée généralisée. Hein. Ça, on peut faire ça pour des gosses. Mais pour une humanité qui arrive à un âge adulte, pas plus. Ça veut dire que Dieu nous laisse une responsabilité beaucoup plus grande. Et une liberté beaucoup plus grande que avant. Il n'y aura plus de déluge. Et il y aura la rencontre avec Jésus. Au terme de cette vie, la rencontre avec notre Sauveur. Alors, on doit essayer de comprendre dès maintenant ce Sauveur et comment il a voulu nous sauver. Parce que je crois comment il a voulu nous sauver et comment nous vivons de ce salut. Et que l'Église est le lieu qui reçoit ce salut. On vous a rappelé l'encyclique, la première encyclique du pape, je crois, qui est très belle, vous l'avez vue, et qui dit des choses étonnantes là-dessus. Très belle. Puisque l'Église a la même mission que Jésus. Donc, une mission de salut. Et l'Église, c'est nous. Ça, c'est encore mieux. Et donc, notre mission est une mission de salut. Dans la mesure où on comprend que Jésus est venu pour nous sauver, dans la mesure où on comprend que l'Église a la même mission que le Christ, comprenons que notre vie chrétienne, c'est de sauver les hommes avec Jésus. Et par le fait même de coopérer au salut du Christ, pour nous et pour les autres. On ne peut pas se sauver sans sauver les autres. On est liés. Encordés dans cette grande aventure que représente notre pèlerinage sur la terre, dans cette grande aventure que représente le pèlerinage de l'Église. Donc, voyez, on doit essayer, parce que c'est le rôle du théologien, hein. Je vais surtout avec vous essayer d'entrer dans ce mystère. On a préparé un. Alors, on pourrait continuer, c'est sûr, je pourrais continuer pour vous montrer que tout l'évangile de Jean, c'est l'évangile du Sauveur. Que toute la théologie de Thomas d'Aquin, c'est la théologie du Sauveur. Mais je crois qu'il faut plutôt essayer de voir actuellement. On ne fait pas une théologie du passé, on fait une théologie actuelle.
Avant 2000 ans après, on sent très bien ça, une espèce de
sacrés par l'Apocalypse, les quatre vivants. Et les quatre vivants qui sont à la fois les évangélistes et qui sont plus profondément le Sauveur. Le lion, le taureau, le visage d'homme, l'aigle. Mais c'est, on n'a pas assez développé ça. Et que c'est quand même la dernière révélation sur Jésus et sur l'Église. Alors, le lion, l'aspect royal du mystère du salut, c'est royal le salut. dire, parce que on voit qu'ils n'ont rien compris. Saint Paul nous le dit d'une façon tellement forte. Scandale, folie. Sagesse. Le Jésus sauveur, c'est un scandale. Parce qu'il est sauveur sur la croix. Donc c'est la manière dont il nous sauve qui est un scandale. Et c'est de la folie. Accepter d'être traîné dans de la boue. De mourir dans un lieu fétide. Dans Monacin, à la suite des pères de l'église, souligne ça. C'était le lieu où les esclaves étaient condamnés. Jamais un homme libre serait mort là, le lieu du crâne, en dehors de Jérusalem. Et on ne les enterrait pas. On les laissait morts. Et les vautours, les animaux sauvages, venaient manger les corps, les cadavres. Un lieu fétide, insupportable. C'est ça qui est un scandale. Que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, l'homme par excellence, termine sa vie là. Scandale et folie. Et sagesse pour le croyant. C'est quand même très étonnant que Dieu ait voulu cette espèce de dépassement complet de tout ce qui est en harmonie avec l'homme. Parce que folie et scandale, je crois que ça ne peut pas aller plus loin comme opposition vis-à-vis d'une harmonie avec nous, avec ce que nous sommes. On voit très bien, la folie, ça touche le point de vue de l'affectivité. Le scandale, ça touche l'intelligence. L'intelligence est scandalisée quand elle doit passer par ce moyen qu'est la croix. Alors qu'il y aurait d'autres chemins. Et c'est ça qui est important à regarder. Et que c'est volontairement que Dieu ait choisi le mystère de la croix pour être le mystère du salut. Il est bon pour vous que je m'en aille. Très bien. Mais que je m'en aille de cette manière, par la porte étroite. Que je m'en aille en étant celui qui, visiblement, extérieurement, est le rejeté, le condamné à mort comme un esclave, comme un blasphémateur. Celui devant lequel on se voile la face. Le psaume, je suis réduit à être un ver de terre. C'est le psaume qui dit tout ça, annonçant la croix. Et que ce soit à travers cela que le salut des hommes s'opère. Que la plus grande victoire du monde, la plus grande victoire qu'un homme ait réalisée, c'est le mystère de la croix dans le cœur de Jésus. Et que cette victoire apparaisse comme la folie la plus grande et le plus grand des scandales. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est l'art de l'Esprit-Saint. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui conduit tout. Alors, je crois qu'il faut souvent se et du Christ. Alors ceci prend une force d'autant plus grande quand on sait, et c'est là la réflexion du théologien, que Dieu aurait pu nous sauver autrement. Ce n'est pas du tout la voie nécessaire. C'est la voie choisie par le Père pour son Fils bien-aimé et pour nous, pour l'Église. Il aurait pu, alors regardons très rapidement, parce que on est dans les possibles, il aurait pu très bien nous pardonner d'une façon magnanime après la chute d'Adam et Ève, parce que ça remonte à Adam et Ève. Il aurait pu très bien leur faire un beau sermon. Il y en a un du reste, hein, il y en a un sermon en trois points. Puisqu'on dit, quand il s'adresse à Adam, il dit non, c'est la femme, et c'est tout le temps comme ça, l'homme. C'est la femme, c'est évident, elle m'a mal conseillé. Et puis l'épouse, c'est l'autre, c'est le serpent. L'humanité a une peine énorme de s'avouer coupable. Une peine énorme de s'avouer coupable. À cause de l'orgueil qui nous est si code naturel. C'est le péché mignon de chacun d'entre nous. Pas besoin de faire une retraite de 8 jours pour savoir votre péché dominant. En une session de théologie de 3 jours, vous savez ce que le péché dominant. Le péché dominant de vous tous, hein, et de moi aussi. C'est l'orgueil. C'est la tête du serpent. Il n'y a que Marie qui l'écrase. Tu aurais pu nous pardonner tout de suite. Si, il est assez grand pour ça. Il est assez bon pour ça, il est assez miséricordieux pour ça, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu infliger une certaine peine à Adam et Ève, et puis dire maintenant ça y est, on se réconcilie. Non, il n'a pas fait ça. Chasser du paradis terrestre. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire chasser du paradis terrestre? Ça veut dire tout simplement que la grâce première, qui était une harmonie parfaite, entre les exigences de Dieu et le cœur de l'homme, c'est fini. C'est fini. Chassé du paradis terrestre. Et il y a l'ange à la sortie. C'est pas pour rien. Rien n'est inutile dans l'Écriture. Pourquoi cet ange? Parce que la nostalgie la plus profonde du cœur de l'homme, la nostalgie la plus profonde du cœur de l'homme, c'est que les exigences de Dieu et les exigences de son cœur puisse être toujours en harmonie. Et ce qu'il y a de plus profond dans le psychisme de l'homme, c'est la nostalgie du paradis terrestre. Ce que la psychanalyse freudienne n'a pas saisi. C'est la nostalgie la plus profonde, la plus radicale, nous sommes tous. Il y a eu une révolution. On a perdu nos droits. Vous savez, c'est pas comme un autre, on a perdu ses droits. Et qu'on n'en peut rien. J'en peux rien d'être né dans le péché originel. Et vous non plus. On n'en peut rien. Et ça nous marque. Ça nous marque. Et ça explique des tas de choses. Ça explique comment l'homme tue l'homme. Conséquence immédiate du péché originel. Cain tue Abel. Et ça se répète. Au Rwanda, c'est Cain qui tue Abel. Alors qu'ils étaient frères. Alors qu'ils étaient faits pour s'entendre. Et ça prend alors une dimension énorme, puisque Cain tue Abel, ils n'étaient pas très nombreux, donc ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Il n'a pas osé tuer son père. Ça n'a pas été jusque-là. Aujourd'hui, ça va jusque-là. Puisque ça s'étend. Tu aurais pu pardonner tout de suite. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Pourquoi? Tu aurais pu horrible, un frère qui tue son frère. Alors qu'ils devraient vivre ensemble. C'est horrible ce qui a été vécu au Rwanda et qui continue. D'une façon moins forte, mais c'est horrible. Au XXe siècle, au Rwanda, hein, ce qui se passe. Au XXe siècle, ce qui se passe dans notre Europe. La haine qui tue, qui détruit. C'est horrible, ça. Et ça, c'est la conséquence de l'orgueil. Ça, on peut le dire tout de suite. C'est la conséquence de l'orgueil. En dehors de l'orgueil, on ne tue pas. L'orgueil lié à la jalousie. Hein. Parce que ça, c'est le caractère visible de l'orgueil, c'est lié à la jalousie. Les hommes sont jaloux parce qu'ils sont orgueilleux. Hein. Si on n'était pas orgueilleux, on ne serait pas jaloux. On voit ça. Vous voyez, Jean-Baptiste, comment corrige-t-il l'orgueil? Comment corrige-t-il la jalousie? En montrant que tout ce qu'il a de bon en lui vient de Dieu. Si on était conscient que tout ce qui est en nous est bon vient de Dieu, on accepterait que tout ce qui est bon chez le voisin qui vient de Dieu, on le regarderait dans la lumière de Dieu et on ne serait plus jaloux du tout. La jalousie, c'est terrible, parce que c'est l'orgueil dans notre affectivité passionnelle. Alors c'est le bouillonnement de l'orgueil dans l'affectivité passionnelle qui fait qu'on ne peut plus supporter quelqu'un qui passe avant nous. On ne peut pas supporter quelqu'un qui aime et qui paraisse heureux alors que nous, on souffre. On ne peut pas supporter ça. C'est l'orgueil. Si l'homme avait été pardonné directement par Dieu, il n'aurait pas compris. Et le péché d'Adam et d'Ève se serait répété. Il fallait corriger l'homme. Et pour que la correction porte, il fallait que ce soit l'homme lui-même qui montre l'horreur du péché en portant sur lui toutes les conséquences du péché. Mais pour que l'homme puisse réparer cette faute d'orgueil à l'égard de celui qui était responsable de toute l'humanité, Adam et Ève. C'était le couple responsable de toute l'humanité. Il fallait que cet homme soit Dieu partir de l'incarnation, n'importe quel geste de Jésus aurait pu être un geste de salut. N'importe lequel. Jésus priant, adorant auprès de Marie. Le sauveur aurait pu être un tout petit enfant. C'est vrai. L'enfant Jésus, parce qu'il est Dieu, tous ses actes ont une valeur infinie. Il aurait pu, en adorant le Père, avec sa mère, auprès de sa mère, avec Joseph. Faire que cette prière du soir soit le salut. Ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Ça aurait donné une certaine grandeur à la prière du soir. Se mettre à genoux, c'est le salut. C'est merveilleux. Non, Dieu n'a pas voulu que l'enfant Jésus soit notre sauveur. Il est notre sauveur, mais il n'a pas voulu que ce soit à travers les gestes et les paroles de l'enfant Jésus qu'on soit sauvé. Alors il aurait pu le faire. Parce que Dieu n'a pas manqué d'imagination. Hein. Ah non, aucunement. Dieu n'a pas voulu que ce soit Jésus travailleur. Ça aurait été parfait au moment de la joie glorieuse de voir que c'est Jésus travailleur qui sauve le monde. Il y avait des articles comme ça, j'en ai lu comme ça dans le temps. Je me souviens quand je faisais des petites conférences à Villeneuve-Saint-Georges, n'est-ce pas, ce qui était les vraiment les durs des durs. Villeneuve-Saint-Georges, c'était tout près de Paris, c'était merveilleux, si je dis. Vous savez, on avait notre couvent du Saulgeoir tout près, et en jeune père, j'aimais beaucoup d'aller leur parler. Et là, une fois, ils m'ont dit, « Père, aujourd'hui, il faut nous apprendre à prier. » Parce qu'on boulonne toute la semaine, alors qu'on peut prier un peu le dimanche. Et alors, ils arrivaient, à Mia, au café, le doyen de Villeneuve-Saint-Georges, il est mort maintenant, donc on peut en parler de lui. Le doyen est arrivé. Alors, il arrive, ça va. Un vrai doyen. Alors, ça va, vous êtes content? Il dit, oh oui, très très fort, on est très très content. Ça marche bien la récollection. Oh, très très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? On a prié. Le doyen, je crois qu'il était complètement foudroyé. Non, il faut boulonner. On a le droit de prier le dimanche, monsieur le doyen. Et on a demandé au père de prier avec nous. Il a prié avec nous. Il nous a entraînés dans sa prière. C'était merveilleux. On n'a jamais fait ça de sa vie. C'était merveilleux. Alors lui, il a continué qu'il fallait boulonner. C'était quelque chose d'étonnant. Jésus, travailleur, boulonnant. Jésus, travailleur, auprès de Joseph, aurait pu dire, c'est ce travail qui va sauver le monde. C'est vrai, il aurait pu dire ça. Le Père aurait pu dire, tu seras un travailleur exemplaire. C'est le travail qui est l'activité la plus humaine. Il faut sauver l'homme à travers son travail. Hein, on sait qu'il y a des idéologies comme ça. Ça existe, ces idéologies-là, la praxis. On va sauver l'homme par la praxis, par le travail. Jésus aurait pu faire ça. C'était plus intelligent que Marx. Il aurait pu le faire. Il aurait pu très bien sauver l'homme par le travail. Par le travail artisanal. La noblesse du menuisier. Celui qui travaille le bois. Puis il arrive comme coopérateur. Il a grand signe apostolique. Il aurait pu sauver les hommes par son enseignement. Oh, ça aurait été très bien. Par son enseignement, c'est quand même digne d'enseignement. Quand Jésus enseigne dans l'évangile de Jean, quand on voit que Jésus annonce le paraclet, quand Jésus parle du pain de vie, ça a une grandeur. Non. Il ne nous a pas sauvés par son enseignement. Il aurait pu nous sauver quand il est guérisseur. Voulu que le mystère de la rédemption s'accomplisse.
session théologique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 5 novembre 1994, le Christ Rédempteur, second cours.
Je rappelle qu'à 15h30, ceux qui veulent participer au carrefour, et je les invite parce que ça peut aider, on divisera, je crois, en trois groupes. Mais soyez ici à 15h30 pour les carrefours. Ah, les carrefours, forcément, vous posez vos questions, vous posez vos difficultés, des choses que vous n'avez pas compris. Et on essaie de comprendre et ça aide beaucoup. Parce qu'autrement, on risque de laisser. Et ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas du tout qu'on reparte avec des questions. Il y a une question ici, j'y réponds tout de suite, du moins j'essaie. Comment le théologien explique-t-il que le Christ et Marie puissent souffrir alors qu'ils sont sans péché? C'est justement à cause de cela. Puisque la souffrance provient du péché et que dans l'état de justice originelle avant le péché d'Adam et Ève ne souffrirait pas. Oui, on va essayer de comprendre ça. C'est juste ce que je comprends très bien. Mais justement, il faut être impeccable pour sauver le pécheur. C'est ça qui est mystérieux et qui est la vision de Dieu. Alors on va essayer d'entrer, vous voyez, dans ce regard du Père sur son Fils bien-aimé à la croix. Cette contemplation, si vous voulez, parce que c'est une véritable contemplation. C'est notre contemplation. C'est notre contemplation chrétienne. En comprenant que la croix est liée à la gloire, sans séparer du tout. On distingue, on ne sépare pas. Le mystère de la croix s'achève dans la gloire, dans la sagesse de Dieu. Et nous devons tout le temps regarder la croix dans la lumière de la gloire. Nous. Autrement, nous tombons dans le dolorisme. Nous tombons dans des perspectives qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas à la contemplation de Dieu. C'est sûr, Marie a vécu le mystère de la croix du Christ dans sa foi toute nue. La gloire n'était pas encore présente et cependant elle était présente. Puisque la victoire de l'amour, elle est vécue à la croix. Dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Marie. Et la gloire, c'est la victoire de l'amour. C'est la manifestation de cette victoire. Mais ce qui est essentiel, c'est la victoire de l'amour. C'est pas la manifestation. La manifestation est seconde. Alors, essayons d'entrer dans ce mystère. Folie et scandale pour notre intelligence humaine, pour notre affectivité. Et ça, on comprend tout de suite. C'est pas un mystère, ça. La folie et le scandale de la croix, c'est pas un mystère. C'est psychologique. C'est humain. Et c'est la réaction normale que nous avons tous lorsque on est blessé et qu'on comprend pas. On dit folie, scandale, on passe de l'un à l'autre. Et sagesse pour le croyant. Donc pour nous, dans la mesure où nous croyons, et dans la mesure où notre foi et notre charité sont moins fortes, on se replie sur tous les manques d'amour plutôt que d'aimer. Le Père a voulu cela, pourquoi? Pourquoi le Père a-t-il demandé à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, d'accomplir sa mission? Le salut de l'humanité par la croix. Et Jésus a accepté. Pleinement. Et Marie a accepté pleinement. Et tous les saints ont accepté pleinement. Ça, on comprend parfaitement. Il y a un mystère qu'on ne pourra saisir que dans la lumière même de la très sainte Trinité. Seul l'amour divin, dans ce qu'il a de plus divin, c'est-à-dire à travers cette fécondité merveilleuse du Père et du Fils et du Père à l'égard de l'Esprit Saint, que le mystère de la croix devient lumineux. Le mystère de la croix pour Dieu est lumineux. Et le salut de l'humanité par la croix, c'est la grande victoire de l'amour divin. Et c'est la manifestation la plus éclatante du mystère de la très sainte Trinité. J'aime te dire, parce que je crois que nous devons essayer d'y entrer, j'aime te dire que l'icône la plus parfaite de la très sainte Trinité, c'est Jésus crucifié, Marie au pied de la croix et Jean. Ce qui nous est révélé dans l'évangile de Saint Jean. Nous aimons beaucoup l'icône de la très sainte Trinité, des trois jeunes gens en face d'Abraham. Elle est très belle, cette icône. Mais c'est une icône qui demeure une préfiguration. La véritable icône de la très sainte Trinité pour nous, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, c'est Jésus à la croix. Il ne fait qu'un avec le Père. Regardez dans l'évangile de Saint Jean, il y a eu cette petite discussion qui a blessé le cœur de Jésus, du reste. Quand l'apôtre Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus ne peut pas s'empêcher de dire, Philippe, depuis si longtemps que je suis avec toi et tu n'as pas compris. Qui me voit, voit le Père. Ah, et ceci est parfaitement vrai quand Jésus est crucifié. Jésus l'image, l'icône, l'image du Père à la croix. À la croix, liée à la gloire, hein, toujours, toujours. Mais à la croix, Marie, c'est l'icône du Fils, du Verbe. Et Jean, c'est l'icône de l'Esprit Saint. Je crois que c'est très... crucifié à Jérusalem, la ville sainte. Et Jérusalem prend une nouvelle signification à partir de la croix du Christ. Mais en dehors des murs. Puisque c'est un lieu fétide. Ce n'est pas un lieu qui naturellement était religieux. Il n'est pas mort dans le temple. Il est mort en dehors de la ville. Dans un lieu qui était un lieu de malédiction. Maudit celui qui est attaché sur le bois. Il a transformé ce lieu en un lieu d'amour. C'est un qui est inouï et qui nous révèle le Père. Le Père, c'est celui qui se sert de source. cela, il faut être très attentif à l'évangile de Jean. Puisque c'est Jean est le seul témoin qui nous a dit son témoignage. Et c'est la grandeur de l'évangile de Jean. Il faut lire et relire ce que saint Jean nous dit quand il décrit la dernière journée de Jésus sur la terre, quand il nous montre comment l'Holocauste de la croix s'est réalisé. ces conséquences du péché originel vivant, des conséquences de ce péché originel et de tout péché personnel d'orgueil. Comme c'était lui qui était le coupable. Pour être médiateur entre les pécheurs et le Père. Pour pouvoir prendre vraiment sur lui toutes les conséquences du péché. Vous voyez, nous y croyons cela. Ça fait partie de notre foi chrétienne. Voici l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Et vous voyez, c'est l'agneau qui porte l'iniquité du monde parce qu'il y a le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est celui qui porte tous les péchés du peuple et qui accepte de les porter. Dans son Jésus peut, dans son humanité sainte et dans son cœur d'homme, connaître cela. Il l'a voulu, le Père l'a voulu, pour nous. Pour que par lui, nous connaissions l'horreur de la faute d'orgueil, et que nous puissions tout faire pour éviter cette de tous les hommes qui vient habiter les conséquence de l'orgueil de tous les hommes qui vient habiter le cœur de Jésus. Et que le cœur du Christ, dans sa vulnérabilité si intense, accepte et porte. Et en faisant cela, Jésus glorifie le Père. En faisant cela, Jésus montre la miséricorde infinie du Père. Puisque ce qu'il y a de plus grand dans la miséricorde, c'est de pardonner. De pardonner le péché. De pardonner l'orgueil. C'est ce qu'il y a de plus grand dans la miséricorde, c'est le pardon. C'est de ne pas vouloir la justice soit réparée par un acte de justice, mais que le péché, l'injustice commise par l'homme soit portée et purifiée par la miséricorde à l'égard de chacun d'entre nous. Le mystère de la réconciliation qui se réalise à la croix, qui se réalise à travers le cœur du Christ. Et par là, Jésus manifeste aux yeux de